Cela nous a été dit au parcours Alpha. Dans Jean 1, on voit André, un des premiers qui est venu à la suite de Jésus, à peine a-t-il fait cette rencontre. Il va trouver son frère, Simon, pour lui parler de Jésus. Un autre, Philippe, à peine a-t-il fait la rencontre avec Jésus, va trouver Nathanaël pour lui parler de Jésus. C'est comme ça que ça se passe tout au long des siècles, et c'est pour ça que l'Évangile est arrivé jusqu'à nous. Quand quelqu'un est devenu croyant, parce qu'il a rencontré Jésus, il en parle à d'autres. Or, dans cette parabole, Jésus envisage que ce ne soit pas le cas pour quelqu'un. Il reçoit un lingot d'or, donc une part de la vie de Jésus, de sa gloire, de son amour, de sa grâce, et il va l'enterrer. Il s'agit ici de quelqu'un qui rencontre Jésus et n'en parle à personne. Il garde cette richesse pour lui. Et finalement, en gardant cette richesse pour lui, dans son jardin, dans la terre, il devient étranger à cette richesse. Et pour finir, elle ne fait même plus partie de sa vie. Cet homme a vécu une rencontre, certes. Il a vécu une rencontre avec Jésus. Mais comme le dit le texte, il n'est plus croyant. Au verset 21 et 23, il y a la traduction fidèle. C'est bien bon, fidèle serviteur. Mais en grec, pistos, ça veut dire aussi croyant. C'est le même mot que Jésus ressuscité donne à Thomas, soit, ne soit pas incroyant, mais soit croyant. Ça se traduit des deux sens, fidèle ou bien croyant. Les deux premiers serviteurs sont croyants. Le troisième, non. Cet homme qui a donc le trésor de l'Évangile chez lui, mais qui n'en fait rien. Qu'est-ce qui se passe pour cet homme? Eh bien, l'image qu'il a de Dieu commence à changer complètement dans sa tête. Pourtant, il avait reçu, par la rencontre avec Jésus, la vraie image de Dieu, qui est un Père. Et comment appelle-t-il Dieu maintenant? Il l'appelle Maître dur. Sais que tu es un maître dur. En grec, c'est le mot scléros. Vous connaissez ce mot, il est passé en français, dans plusieurs mots en français. La sclérose. La sclérose, c'est quelque chose qui est dur, rigide. Voilà comment il appelle Dieu. Complètement faux. C'est pourtant la vision, peut-être, que certains ont encore de Dieu, même dans l'Église. Et pourquoi? Parce qu'à force de ne rien faire avec l'Évangile, à force d'ignorer le Saint-Esprit qui fait partie de tous les lingots d'or que Jésus nous a laissés, ces chrétiens qui acceptent de conserver, certes, l'Évangile, qui même gardent le nom de chrétiens, mais n'utilisent pas l'Évangile, et ce qui en fait le cœur, la puissance de l'Évangile, l'apôtre Paul dit, c'est le Saint-Esprit. À force de ne pas utiliser l'outil que Dieu leur a donné, ils ne savent même plus qu'ils l'ont. Je dois dire, moi, que j'ai des outils dans mon atelier que je n'utilise jamais. Et toutes les années bissextiles, quand je range mon atelier, je me dis, oh, ben j'avais ça. Voilà, à force de ne pas utiliser, on oublie même la chose. On ne sait même plus qu'on l'a. Ici, dans cette parabole, Jésus nous dit que la non-utilisation de la richesse qu'il nous a donnée nous amène, sans que nous nous en rendions compte, à un regard perverti sur Dieu, au lieu de le considérer comme un Père compatissant, miséricordieux, tendre, fort et doux en même temps. nous l'appelons maître dur, sévère, rigide. Et même, on est très fort pour faire des reproches indirects. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Mais moi, en tout cas, je suis très fort pour faire des reproches indirects. Et là, ce serviteur fait des reproches indirects à ce maître qu'il estime dur. Voilà ce qu'il lui dit. « Tu moissonnes ou tu n'as pas semé ?» Ça commence comme ça dans le jardin d'Éden. On reproche indirect de Adam à Dieu, la femme que tu m'as donnée. C'est elle qui m'a donné du fruit, de l'arbre. Reproche indirect à Dieu et en même temps à la femme. Tu moissonnes ou tu n'as pas semé. Voilà le comble de la perversion. Car nous savons que Jésus a semé sans compter et même en gaspillant. La plupart de la semence que Dieu a répandue parmi nous, elle est sur les chemins, elle est dans les ronces, elle est dans les pierres. Nous, on n'aurait jamais semé comme ça, à pure perte. Mais Dieu, oui. Oui, il sème partout. Et voilà qu'on lui reproche de moissonner où il n'a pas semé. Et vous remarquez que Jésus dit que nous serons pris au piège, nous-mêmes, par les mots que nous utilisons. En effet, au jugement dernier, le Seigneur dit à ce serviteur, « Tu savais que je moissonne ou que je n'ai pas semé. » Dieu n'aura même pas besoin de prononcer d'autres mots que ceux que nous avons prononcés. Nous serons jugés par ce que nous aurons nous-mêmes prononcé comme mots. Et le Seigneur dit, tu savais que je moissonne ou que je n'ai pas semé. Tu aurais donc dû placer mon argent chez les banquiers. Nous pensions peut-être derrière ce reproche indirect, faire encore un autre reproche indirect, c'est que le Seigneur nous demande de nous fatiguer pour son royaume, pour son règne. Qu'il nous demande des efforts. Ah, j'ai un lingot d'or, oh là là, quel boulot maintenant de faire multiplier ça. C'est comme ça que nous pensons peut-être, ou que je pense avec la parole de Dieu. Comment, oh là, j'ai un tel trésor, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant pour que ça se multiplie? C'est pas fatigant. C'est pas fatigant de multiplier la parole de Dieu, c'est pas fatigant. C'est nous qui mettons ça dans notre tête. C'est ce qui nous a été dit autour de la table de communion par la première prière. Encore une fois, nous voyons comment le Saint-Esprit parle et nous indique des choses par les uns et les autres. Patrick nous a fait cette prière. Merci Seigneur pour le repos. Merci Seigneur pour le repos. Oui, tu ne nous demandes pas de nous fatiguer. Nous agissons dans un repos. Ce n'est pas compliqué d'aller à la banque et de déposer ce lingot à la banque. Donc nous sommes pris au piège par nos propres mots, par tous les reproches indirects que nous allons faire à Dieu au jugement dernier. C'est ça qui nous perdra. Car Dieu ne nous demande pas, quand il nous demande de travailler pour lui, il ne nous demande pas des choses inhumaines. Il nous demande de travailler pour lui. Mais Jésus a dit que le travail le plus dur pour lui, nous l'accomplirons avec légèreté, avec du repos, avec du calme. Il a dit, venez derrière moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, prenez mon joug sur vous, car je suis doux et humble de cœur, et mon joug est doux. Et mon fardeau léger. À force de ne pas parler de Jésus aux autres, nous enterrons ce qui nous a été donné. Nous pouvons même l'oublier et devenir encore pire que le troisième serviteur de la parabole. Nous pouvons en arriver à croire que Dieu ne nous a rien donné. N'est-ce pas ce qu'on entend parfois dans l'Église ? Oui, le monde va mal, mais l'Église n'a rien à donner aux autres. Ce sont les autres qui vont nous évangéliser. Et je me surprends moi-même parfois à penser ainsi, comme si ce que Jésus m'avait donné n'était pas réel. Et faisons attention donc à notre image que nous avons dans notre tête par rapport au Seigneur. Et posons-nous la question, qu'ai-je fait du lingot d'or qui m'a été donné? Si je pense que le salut apporté par Jésus n'est pas réel, c'est peut-être que je ne l'utilise pas. Et puis on est très spécialisé pour des pensées pieuses avec lesquelles on se remplit la tête. Peut-être ce troisième serviteur avait cette pensée pieuse dans sa tête. Ouh, ce lingot d'or, ça vient de Dieu. Oh, il ne faut pas y toucher. C'est saint. Je vais le garder précieusement pour pouvoir le lui rendre sans avoir souillé cela avec mes mains d'homme pécheur. Il perdrait de sa valeur si je me mettais à utiliser ce lingot qui vient du roi des rois. Voilà des pensées pieuses, mais qui sont des blasphèmes. Car si le Seigneur est devenu un être humain, ce n'est pas pour que nous continuions à séparer « Ah, ça, ça vient de moi, ça vient du Seigneur. » L'incarnation, la croix et la résurrection de Jésus font que l'humain et le divin sont mêlés maintenant. Ce qui appartient à Dieu nous appartient. Son esprit nous appartient. Et nous, nous appartenons à Dieu et au Christ. Et ceux qui ont utilisé les lingots d'or, on peut parier qu'ils ne se sont pas posés ce genre de questions. Ils ne se sont pas demandé qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est à Dieu. Peut-être même qu'ils ont bien profité aussi, eux, des lingots d'or, tout en les faisant fructifier. Parce qu'au passage, on peut quand même ramasser quelques bénéfices pour soi. Et alors, quel mal y a-t-il à jouir des grâces de Dieu? Est-ce un péché que de jouir nous-mêmes de la grâce de Dieu tout en la partageant aux autres? Je pense que les bénéfices, les fruits que portent les lingots d'or de la vie du Christ, ce sont des conversions. Ce sont des êtres humains qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont libérés, vivifiés par la vie du Christ. Et tout ça parce que nous aurons laissé le Saint-Esprit agir en nous. Moi, à cause de cette parabole, je vais réviser l'opinion que j'ai de certains pasteurs qui se targuent d'avoir une église avec 3000 membres. Eh bien, au fond, pourquoi pas? Pourquoi ne serait-il pas fier qu'il y ait eu 3000 conversions? Il y a bien eu 3000 conversions quand Pierre a prêché à Jérusalem, non? Pourquoi ne serait-il pas fier de ce qu'ils aient laissé agir la grâce de Dieu? Est-ce un péché de se réjouir quand quelqu'un se convertit? Il faut arrêter avec nos fausses humilités pieuses, ce qui sont des orgueils déguisés et qui cachent parfois tout simplement notre nudité, le fait que nous n'utilisons pas la grâce de Dieu. Il y a quelques années, il y avait encore le pasteur Charlie Cleverly à Belleville, à Paris. Il nous a raconté que quand quelqu'un recevait Jésus comme son sauveur, recevait le Saint-Esprit, le soir, il ouvrait une bouteille de champagne avec sa femme. Voilà, la joie de l'Évangile, la joie de voir des enfants. Et là, je rejoins le psaume du début du culte, le psaume 128. Qu'est-ce qui est promis à l'homme qui craint Dieu? Des enfants et des enfants. Eh bien, c'est promis à tout homme, toute femme, mariée ou non, qui utilise la grâce de Dieu qui lui a été donnée. Des enfants, des nouveaux enfants dans la foi, dans le Christ. Dans le Notre Père, nous disons: pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est encore des lingots d'or qui se multiplient. Dieu nous pardonne, nous pardonnons aux autres, et ainsi le pardon ne fait que se multiplier. C'est ça la vie de Jésus. Je dirais qu'il vaut peut-être mieux se glorifier un peu trop d'avoir une vie chrétienne féconde plutôt que de se contenter d'une vie chrétienne stérile. C'est le sens du psaume 128. Des enfants, voilà le bonheur. Et des enfants spirituels, ça existe. Des conversions, des délivrances, des vies transformées. Alors, si nous avons été touchés par cette prédication, prions dans ce sens que la vie chrétienne se multiplie, qu'elle fasse des petits, que le Seigneur nous donne d'utiliser son Saint-Esprit. C'est lui qui engendre à la vie d'en haut, c'est pas nous. C'est lui qui engendre à la vie éternelle. Et ne craignons pas d'être trop fiers de cette fécondité de la vie de l'Esprit. De toute façon, quand le Maître viendra dans la gloire, nous allons lui apporter tout, et toute la gloire lui reviendra. Et lui, il nous dira: viens, viens, serviteur, croyant, viens, entre dans la joie de ton Maître, encore de la joie et toujours de la joie. Amen.